Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce mardi 14 juin, les titres. C'est un sport populaire, pourtant son image est dégradée. Face aux violences qui touchent le football, le parquet de Gap a signé une convention dimanche pour mieux sanctionner les auteurs d'infractions, mais aussi mieux protéger les dirigeants, les arbitres, les bénévoles et les joueurs. Un soutien de taille pour Christophe Castaner pour les législatives. Éliane Bareil, la présidente du département des Alpes de Haute-Provence, dit, je cite, « avoir besoin de pouvoir compter sur des parlementaires capables de défendre et de faire avancer les projets du territoire ». Embrun se prépare à la canicule. Son CCAS met en place un registre pour les plus fragiles. Il doit permettre de les recenser et de les contacter en cas de forte chaleur. Les gars pensés, Johan et Loïc Coulot font leur retour chez les Rapaces de Gap. Une réelle satisfaction pour le club qui ne tarit pas d'éloges sur les deux frères. Mais pour commencer, des recherches à Ancel sont mises en place après la disparition d'un homme. Un gros dispositif depuis 15 heures est lancé pour retrouver cet individu d'une cinquantaine d'années. C'est dans le secteur de la vallée de la Rouanne que les recherches terrestres, aériennes et même cynophiles se concentrent de la part de la gendarmerie et du PGHM de Briançon. Un incendie a touché la nuit dernière vers 23h30 le U-Express de Saint-André-les-Alpes. Il serait parti d'un congélateur de la surface de vente. 20 pompiers ont été mobilisés sur ce sinistre jusqu'à 3h ce matin. Les fumées ont endommagé le bâtiment de 750 mètres carrés. Le magasin est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le parquet de Gap se mobilise face aux violences sportives. Une convention a été signée dimanche dans les Hautes-Alpes. C'est le football qui est ciblé ici. Un sport populaire avec une image pourtant dégradée, explique le procureur Florent Crouy. Il s'agit de protéger les dirigeants, les arbitres, les bénévoles et les joueurs. Les auteurs d'infractions doivent être mieux sanctionnés. Pour le procureur, pour les faits les moins graves, le passage devant le tribunal n'a pas toujours du sens. L'idée et donc de mettre en place des mesures qui accompagnent l'auteur des faits pour lui faire comprendre la portée de ses actes et ses conséquences.
L'idée générale de la convention, c'est d'abord faire remonter les incidents au parquet. Et on se rend compte qu'en définitive, les incidents ne remontaient pas toujours. Les faits les plus graves de violence, c'était le cas, puisqu'il y avait souvent des plaintes qui étaient déposées. Mais les petits incidents d'outrage, de dégradation de biens publics, ne remontaient pas au parquet. Je vais essayer, pour les faits les moins graves, de travailler sur des circuits très courts pour apporter une réponse alternative aux poursuites. Moi, j'ai souhaité que le district des Alpes et les clubs soient acteurs aussi de la réponse pénale. Et au travers de la proposition que j'ai pu leur faire, ils ont accepté d'être habilités pour recevoir des personnes sous main de justice dans le cadre de travail d'intérêt généraux ou de travail non rémunéré. Donc quand on aura des auteurs d'infractions pénales, encore une fois, de faible gravité, commises dans les stades ou aux abords, et là, je le convoquerai devant un délégué du procureur et après, il sera orienté vers le district des Alpes qui choisira un club dans le département pour accueillir le jeune. 35 heures de travail d'intérêt général avec d'abord des menus travaux de réparation au stade, par exemple, repeindre un vestiaire. Ensuite, participer à des entraînements avec les éducateurs, mise en place du terrain, petit arbitrage au cours des matchs et un passage aussi avec l'arbitre pour le respect de la règle du jeu.
Notez que l'UNAF 05 est également associé à cette convention relative à la lutte contre les violences dans le football sur le département des Hautes-Alpes. C'est un soutien de poids pour Christophe Castaner pour ses législatives. Un soutien personnel face à, je cite, l'extrême gauche et au candidat mélenchoniste, écrit la présidente du département des Alpes de Haute-Provence dans un communiqué de presse. Éliane Bareil souligne ne pas pouvoir rester silencieuse face à la situation politique de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence. Se revendiquant une femme de droite et malgré des convictions différentes avec le candidat d'Ensemble, la présidente dit avoir besoin de pouvoir compter sur le soutien de parlementaires capables de défendre et de faire avancer les projets du territoire. L'expérience ministérielle de Christophe Castaner, sa proximité avec le président de la République sont donc des atouts, selon Éliane Bareil, pour faire progresser le territoire. Le collectif pour une réanimation à Manosque interpelle, lui, les candidats aux législatives. Un courrier a été adressé au député sortant Christophe Castaner ainsi qu'à Léo Valter de la NUPES. Le collectif souhaite obtenir une position écrite avec des propositions concrètes sur trois points. L'amélioration de l'accès à la santé et aux soins publics dans les territoires ruraux, surtout le bassin de santé de l'hôpital de Manosque. Autre proposition attendue sur l'ouverture d'un service de réanimation polyvalente de 8 lits dans le centre de Manosque. Et puis bien sûr la question des urgences. Comment les candidats comptent-ils maintenir, mais aussi développer, le service des urgences de la cité Giono? Un service qui, vous le savez, est touché régulièrement depuis le mois de janvier par des fermetures la nuit. Embrun se prépare à la canicule avec l'activation de son plan de gestion sanitaire des vagues de chaleur. Les personnes de plus de 65 ans, celles de plus de 60 ans, inaptes au travail, en situation de handicap et vulnérables ont donc la possibilité de se faire connaître auprès du CCAS d'Embrun. Un registre communal y sera mis en place pour pouvoir les recenser et les contacter en cas de canicule. Objectif, apporter conseil ou assistance. Pouvant émaner d'un tiers, cette inscription doit être écrite en remplissant un formulaire disponible à l'accueil du CCAS ou sur le site internet de la commune. Le centre-ville de Digne-les-Bains a désormais sa conciergerie. C'est l'association L04 qui lance cette initiative pour 8 mois. Cette conciergerie souhaite ainsi répondre aux petits besoins de la population dinoise en proposant notamment des tarifs compétitifs car non soumis à la TVA. Céline Dalmas est chargée de développement et d'insertion à l'antenne de Digne-les-Bains.
Ça consiste à proposer des petits services dans le quartier politique de la ville, mais aussi dans le centre-ville, puisque nous y sommes, à la population. Petites aides au niveau bricolage, monter un meuble, descendre une baignoire parce qu'on doit refaire la salle de bain. On peut avoir une aide à l'écriture d'un courrier pour certaines personnes. On évalue en même temps la demande et le type de service qui pourrait nous être demandé aussi. Parce que ça peut être aussi promener un chien, donner à manger un chien parce que les gens sont partis, aller ouvrir des volets, fermer des volets, tout ce qui peut apporter un petit coup de main. Donc à la demi-heure, c'est 11 euros. Et donc à l'heure, 22 euros. La conciergerie, elle fonctionne sur 4 demi-journées par semaine. Les demi-journées du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi matin. On aimerait bien la pérenniser et laisser aimer après dans le département.
Deux salariés que l'association accompagne durant 24 mois dans leur projet professionnel et surtout vers l'emploi pérenne sont donc attitrés à cette conciergerie. En bref, le département des Hautes-Alpes, premier département bio de France, résultat du baromètre de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Les surfaces agricoles utiles transformées en bio pèsent désormais 42,7%. Un podium qu'il faut partager avec le Var. Dans cette édition, on prend la direction de la place forte de Mont-Dauphin et plus précisément de sa caserne Rochambeau, un lieu en cours de rénovation pour 3,6 millions d'euros grâce à des financements du plan de relance. La première phase de travaux consiste en la restauration de la charpente et de la couverture du bâtiment. Elle se conclura au mois de novembre. La seconde phase débutera au printemps 2023. Reportage de Christophe Laurenceau.
Qui dit chantier d'envergure dit aussi important moyen. Le balai de l'hélicoptère s'active ce matin-là. À plusieurs mètres de haut, perché sur des échafaudages, des ouvriers spécialisés ne perdent pas une minute pour accrocher les big bags, ces gros sacs de gravats de plus de 850 kg à la machine en vol stationnaire, car tout est millimétré pour cette opération, explique Malo Le Barazer, chef de chantier.
On a opté pour l'option de l'héliportage parce que c'est un chantier avec des accès assez difficiles, notamment avec les différents porches qui sont étroits où nos camions ne pourraient pas passer. On héliporte directement depuis le bas de Mont-Dauphin jusqu'au chantier et c'est un gain de temps énorme.
Pour l'heure, le chantier avance bien malgré la découverte de 80 ardoises amiantées datant des derniers travaux effectués dans les années 1980. Une dizaine d'ouvriers spécialisés travaillent sur cette restauration de la charpente et de la couverture de la caserne. Ces charpentiers et couvreurs sont souvent issus du compagnonnage, gage d'un travail de qualité, souligne Jessica Garin, PDG de la société Eurotoiture, surtout que le chantier est complexe.
On est sur une charpente vraiment atypique, qui est une charpente Philibert Delorme, qui nécessite vraiment un soin très particulier, tant sur l'étude et après sur sa restauration. Et ensuite sur une pose d'ardoise spécifique, puisque c'est une pose d'ardoise qui est à pureau décroissant. Donc pour nous, c'est une pose qui est assez spécifique et une pose au clou plus longue à réaliser.
Construite au XVIIIe siècle, la caserne Rochambeau était dotée à l'origine d'un toit terrassé pour servir de terrasse d'artillerie. Au XIXe siècle, le choix avait été fait de la recouvrir avec une charpente à la Philibert Delorme, précise Manon Asséna, chargée de communication pour le Centre des Monuments Nationaux.
Qui présentait l'avantage de conserver l'espace disponible, mais surtout qui permettait d'utiliser que des petits morceaux de bois. On sait qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de bois de grand format disponible ici.
Aujourd'hui, cette vieille dame a le regard tourné vers l'avenir. Un champiculteur s'est installé il y a 4 ans sur le site, suivi par une cave d'affinage en 2020. Le lieu sert aussi d'espace d'exposition pour l'œuvre monumentale d'Ousmane Sow, Little Bighorn. Avec cette restauration, Mont-de-Fin fait désormais partie des monuments pilotes pour la mise en place de tiers-lieux.
On est encore sur une étude de faisabilité pour donc développer de nouveaux usages. L'intérêt vraiment, c'est que ce soit quelque chose de mixte. C'est ça qui fait en fait d'ailleurs le tiers-lieu, c'est le côté mixte des activités. Et puis l'aspect quand même collaboratif avec des espaces communs.
Sur les 56 chambrées de la caserne Rochambeau, plus de 36 pourraient être utilisées. Un lieu chargé d'histoire qui a encore de beaux jours devant lui.
Merci Christophe.
Alpe 1 Sport.
Les gars pensés Johan et Loïc Coulot font leur retour chez les Rapaces. Les deux frères reprendront la saison prochaine les couleurs des bleus et blancs, celles de leur club formateur. Et pour le manager général, c'est une réelle satisfaction. Nous avons affronté régulièrement Loïc cette saison. Il coche beaucoup de cases que nous recherchions. Joueur intense avec un fort caractère. Ailier droit, Sébastien Oprandi qui ne tarit pas d'éloges sur Johan Coulot. C'est un joueur avec beaucoup de qualités physiques et techniques. Nous sommes persuadés qu'il sera un élément important de notre défense la saison prochaine.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.